Lundi 14 mars, 4 jours après le tremblement de terre. Il est 17h45 et les 120 secouristes de la sécurité civile française viennent d'atterrir sur l'aéroport d'Haneda, à Tokyo.
Là, vos gars, vous les avez briefés, il y a une inquiétude par rapport à la radioactivité ou pas ?
Il y a l'inquiétude légitime de garçons qui ont regardé les médias avant de partir en opération, mais elle est une inquiétude atténuée parce que ce sont des gens formés à travailler en ambiance chimique ou radiologique, donc ils seront gérés. Mais ils seront gérés s'il y avait un besoin quel qu'il soit, mais je crois pas. Je crois qu'on va travailler sur du sauvetage des bléments classique et ce sera très bien comme ça.
Classique, la situation ne l'est pas, mais le lieutenant-colonel ne le sait pas encore. L'ambassadeur de France au Japon, Philippe Faure, est venu lui-même accueillir les secouristes sur le tarmac. Premier briefing.
Notre point de chute, on va voir sur une carte, ça va m'aider.
C'est bien Sendai, mon colonel. Ça se trouve donc environ, c'est à peu près 50 km, près de 100 km des deux zones.
Ce serait ici, hein ?
Voilà, oui.
Très bien. À côté d'un aéroport. Ça, c'est un endroit qui a été très ravagé.
Pas le pire.
Le pire de tout. C'est là où il y aurait des ressortissants français, d'où le...
C'est le pire.
La localisation préférentielle pour nous.
Très bien.
4 jours après le séisme, l'ambassadeur est encore sous le choc.
Oh, c'est terrorisant, hein. D'autant plus terrorisant que ça a duré. Ça a duré près de 3 minutes, hein, je crois, 2 minutes 45, 2 minutes 50, croyez-moi, quand vous êtes sous la table et que ça bouge fortement. Oui, on a tout super, bien sûr.
Dans les prochains jours, une de nos équipes va suivre ces hommes de la sécurité civile qui pensent encore à ce moment-là pouvoir sauver des vies. Dans ce même aéroport, une autre de nos équipes va tenter de se rendre par ses propres moyens sur les zones sinistrées. Mais les téléviseurs de l'aéroport international viennent d'annoncer l'explosion du réacteur numéro 3 de la centrale nucléaire de Fukushima. La traductrice qui doit nous accompagner, Mao, s'interroge.
L'un des bâtiments derrière le réacteur était intact à 9h. Et à 4h de l'après-midi, il ne restait plus que les murs.
Vous avez peur ?
Oui, tout le monde est terrifié.
Mais vous allez nous accompagner quand même ?
Non, je suis désolée. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous accompagner. J'ai peur pour ma vie.
Notre reporter décide de partir seul. Il va prendre un vol intérieur pour rejoindre le nord du pays. La sécurité civile part en convoi vers le nord. Elle emprunte une autoroute désormais réservée aux secours. Les Français sont parmi les tout premiers à rejoindre la zone. La population ne peut plus prendre cette route vers le nord ?
Non, c'est fermé. Les seuls qui peuvent passer sont les secours et les officiels. Les civils, non.
Pas les civils ?
Les civils, non.
Devant nos yeux, les premières traces du passage du tsunami. Des champs inondés à perte de vue des deux côtés de l'autoroute déserte. Nous allons parcourir 300 km pour atteindre l'une des zones les plus sévèrement touchées.
Otsushi.
Pendant ce temps, notre deuxième équipe a rejoint le nord. Son objectif, Otsushi, une petite ville dont 85% des habitants sont portés disparus.
Non, n'y allez pas. Toutes les routes sont coupées. Vous n'y arriverez jamais par là.
Le policier a dit vrai, il nous faudra faire toute une série de détours. Et nous mettrons plus de 6 heures pour parcourir 80 km. Les premières traces de la catastrophe apparaissent. Ce panneau arraché nous indique que nous sommes arrivés à destination, Otsushi. De cette petite ville de 17 000 habitants, il ne reste que cette route, comme une digue qui a résisté miraculeusement De part et d'autre, la ville a été rasée, engloutie, balayée. Sur les décombres, pas de secouristes, pas de renforts militaires, personne. Le seul endroit où il y ait encore de la vie, c'est la route, parcourue de rescapés. Tous ont l'air abattus. Certains se racontent leur infortune.
Tu vois mon ami là ? Eh bien, sa maison. Tu vois la rouge qui est là-bas ? La rouge là. Oui, bien avant, elle était de l'autre côté du pont.
Si loin que ça ?
C'est vrai, j'habitais là, à côté du cabinet médical.
En dehors de ce bref échange, le silence est impressionnant, troublé uniquement par le passage d'un hélicoptère. Nous rencontrons un Japonais qui parle quelques mots d'anglais. Il accepte de nous servir de guide.
Bon, je vais vous aider, mais pas maintenant. Je vais revenir. Je vais revenir vous chercher.
Dans l'immédiat, il a d'autres urgences, mais il nous donne rendez-vous dans quelques heures. Après 8 heures de route, le convoi de la sécurité civile atteint enfin Sendai. Avec 1 million d'habitants, c'est la plus grosse agglomération touchée par le tsunami. C'est ici que les autorités japonaises ont fixé rendez-vous à 3 équipes de secouristes venues de l'étranger.
Bon, je pense qu'il y a répartition des zones, attribution des secteurs.
Bon, alors les Français par là et les interprètes par ici.
Malgré l'ampleur de la catastrophe, le sens de l'organisation à la japonaise est intact.
Maintenant, le responsable de la municipalité va vous expliquer la situation.
Merci beaucoup. Votre mission est de vous rendre dans le quartier de Yuriage. Il va falloir dégager le quartier, nettoyer les débris des maisons emportées par le tsunami.
Est-ce qu'il est encore possible de trouver des survivants ?
Oui, il y a de l'espoir. Et on continue à chercher encore. Mais je vous mets en garde. Il y a encore un risque de réplique et de tsunami. On essaiera de vous avertir, mais même si vous n'entendiez pas d'avertissement, soyez prêts à vous réfugier sur les hauteurs en cas de besoin. En ce moment même, il y a un incendie à la centrale nucléaire. Selon nos informations d'hier, il ne devrait pas y avoir de danger.
Retour dans le nord avec les rescapés d'Otsuchi. La nuit tombe. Nous allons retrouver l'homme qui va nous servir d'interprète devant le collège où il travaille. Il est professeur d'anglais. Ce bâtiment est devenu le dernier endroit habitable à des kilomètres à la ronde.
Les gens qui sont ici ont perdu leur famille. Ils ont perdu leur maison. Ils sont choqués. Ils viennent ici pour trouver un abri et quelque chose à manger. Ils sont choqués. Ils sont nerveux. On ne peut pas aller leur poser de questions parce qu'ils sont sous le choc. Ils sont en larmes, vous comprenez ?
Ici, j'ai un abri, je suis au chaud. On va se débrouiller.
Elle a perdu sa maison. Sa maison a été inondée et emportée par la mer. Mais elle dit que pour l'avenir, elle garde le moral. Il faut que nous survivions dans le futur, c'est ce qu'elle dit. Il faut survivre.
Ne pas se lamenter, défendre la dignité des siens. L'homme ne nous laissera entrer dans le bâtiment que pour quelques minutes. Ici, ils sont plus d'une centaine. Ce qui nous frappe, c'est le calme, le silence. Un îlot de paix au milieu du chaos. L'homme nous demande de ressortir.
Dehors, c'est mieux. Filmez à l'extérieur plutôt.
Dans cette ville où il n'y a ni électricité ni chauffage et où la température descend la nuit en dessous de zéro, on se réchauffe autour d'un feu de bois en montrant les images qui restent de sa vie d'avant.
Ma maison était là. Ma maison était ici. Et je n'ai retrouvé que le dernier étage.
Plus au sud, à Sendai, dans leur campement improvisé, les hommes de la sécurité civile se réveillent. Hier, ils ont atteint la ville à la tombée de la nuit, trop tard pour commencer les opérations de recherche. Ils s'apprêtent à faire leur premier pas sur le terrain. À 100 km de là, l'état de la centrale nucléaire de Fukushima inquiète. Mais la sécurité civile a emporté de quoi mesurer l'exposition aux radiations de chacun de ces hommes.
Ça va, en pleine forme.
C'est l'alarme. En fait, ton alarme s'est déclenchée parce qu'on avait nous programmé qu'à 5 microsieverts, on a une préalarme qui dit attention, on a fait ça.
Donc, ça, c'est le réglage.
Oui, ça, c'est l'alarme qui s'est mise en route. Vas-y, continue à appuyer.
Donc là, je suis à 8.
Donc en fait, t'es à 8.
D'accord.
Ouais, donc toi, t'as pris 8. Ce qui n'est pas énorme du tout. Hein. Donc c'est... L'ensemble du dispositif, l'ensemble des personnels dispose d'un dosimètre individuel de ce type-là qui nous permet en instantané de mesurer la dose de radioactivité qu'on reçoit. Et ce sont des appareils qui sont électroniquement très sophistiqués, qui permettent de comparer la dose que l'on reçoit au corps humain et donc de savoir exactement les effets de la radioactivité sur le corps humain. Donc en fonction de cet appareil, on sait si on est en sécurité ou pas sur le plan vraiment physiologique et humain des dégâts liés à la radioactivité.
Dans les camions, 20 tonnes de matériel apportées depuis la France. Des systèmes capables de détecter des survivants sous les décombres, des vérins pour soulever les débris qui retiendraient des blessés. Les secouristes ne le savent pas encore, mais ce matériel ne leur sera d'aucune utilité. Les équipes de la sécurité civile arrivent enfin sur le périmètre qui leur a été assigné. Nous découvrons un paysage tout simplement apocalyptique. Yoliage était une commune de 7000 habitants, voisine de Sendai. Située en bord de mer sur un terrain sans relief, elle a été entièrement engloutie par une vague de 10 mètres de haut. Dans cette partie de la ville, l'habitat était essentiellement constitué de petits pavillons de bois. Il n'en reste que des planches éparpillées.
Oui, effectivement, c'est impressionnant. On est des hommes avant d'être des sapeurs-sauveteurs. Effectivement, c'est impressionnant. Mais là, je mets mes émotions personnelles de côté. Là, on a engagé une course contre le temps. La priorité maintenant est d'engager le travail le plus vite possible pour retrouver des victimes potentielles.
La neige a commencé à tomber. Il fait 0 degré. Les équipes du lieutenant-colonel Valette vont rapidement se rendre compte que la recherche de survivants est un objectif illusoire.
Merci, Le problème avec ce bagnole, c'est qu'on va avoir du mal à y aller.
Là-dedans, il n'y a rien.
Hein ?
Il n'y a rien là-dedans, non ?
C'est absolument pas sûr.
Cette voiture est en équilibre précaire au-dessus d'un petit étang. Le givre rend les vitres opaques.
Tu vois ?
Il faut les briser pour voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur.
Prends un bâton, tu pètes une vitre, tu vois. Vide. Or not.
Personne dans la voiture. Aucun blessé détecté dans les décombres. Pas un survivant. Seulement des cadavres.
Non, y'a rien.
Une marque de peinture à chaque fois qu'un corps sans vie est retrouvé. Comme ici, sous cette poutre.
Pour l'instant, donc, un paysage, on va dire, assez apocalyptique. Des maisons un petit peu partout qui ont subi quand même pas mal de dégâts, des décombres vraiment de partout, essentiellement composés de bois. Et pour l'instant, de manière très visuelle, donc une personne décédée. Voilà. Pour le reste, pour l'instant, donc on a donc un chien et un maître chien qui ont fait quelques marquages sur des potentielles odeurs. Néanmoins, pour l'instant, nous n'avons pas pu confirmer que ces odeurs correspondaient à des cadavres. Voilà.
Est-ce qu'il y a une chance encore de trouver quelqu'un vivant dans un décor comme ça, j'allais dire.
Dans un décor comme ça, c'est pas évident, mais ça. La chance existe toujours. Voilà. Donc on va se fier à ça, et comme on dit, l'espoir fait vivre, donc de toute manière on va continuer à chercher. Après si on s'en tient à des conditions climatiques, effectivement elles sont pas optimum pour que une personne puisse résister à de telles températures en étant depuis si longtemps sous des décombres, d'une part. D'autre part, d'un point de vue complètement médical, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que certaines personnes peuvent tenir jusqu'à 7 ou 8 jours dans les décombres.
Mais l'espoir doit parfois reconnaître sa défaite. Après 7 heures de recherche, les hommes de la sécurité civile ne retrouveront que des morts. Les milliers de disparus que compte la région se trouvent là, quelque part sous les planches et la boue. La mission des hommes de la sécurité française s'arrête. Ils vont plier bagages au milieu de la nuit, c'est désormais leur vie qui est en jeu. Ils remonteront à 350 km de là, le plus loin possible de la centrale de Fukushima. Une catastrophe nucléaire se profile. Pendant ce temps, notre deuxième équipe traverse un paysage tranquille. Et sur cette route enlacée, on en oublierait presque que la catastrophe a eu lieu. Quelques virages plus tard, le squelette d'une maison nous ramène à la réalité. La neige n'a pas tout recouvert. Nous arrivons à Kamaichi. Hier, port industriel, aujourd'hui, champ de ruines. Sur une montagne de débris, deux militaires, avec pour tout équipement un bâton et des gants. Qu'est-ce que vous faites ?
Je cherche des rescapés du tsunami. On est venu voir s'il y avait des gens à sauver.
Il y a eu combien de morts ?
On vient de commencer dans le secteur, donc on ne sait pas encore.
La ville ressemble à une décharge. Dans ce magma, les objets les plus intimes ont surnagé. Ce sont ces souvenirs de la vie d'avant que les survivants recherchent, comme cet homme avec son club de golf.
Je cherche tout ce qu'il y avait dans ma maison.
Il y a eu des victimes parmi vos proches ?
La tante de ma mère est portée disparue. Ça suffit maintenant.
Ni larmes ni colère, cet homme n'a plus la volonté de témoigner. Nous demandons notre chemin jusqu'à l'océan. Et nous débouchons dans ce hameau. Cette jeune femme revient pour la première fois dans son quartier. Au premier coup d'œil, impossible de retrouver l'emplacement de sa propre maison. La vague géante n'a laissé que les fondations.
La vague est arrivée de là-bas. Et elle est allée jusqu'au bout, de l'autre côté. J'ai eu peur et j'ai cru que j'allais mourir.
Dans ce Japon rural, tout le monde se connaissait.
La maison de mes beaux-parents était ici. Il y avait 250 habitants. Il reste 200 personnes. 50 ont été emportées par le tsunami.
Soudain, en pleine interview, la terre tremble.
Encore une secousse.
Ce n'était qu'une petite réplique. Vous avez eu peur avec le tsunami ?
Oui, j'ai eu peur. On s'est réfugié là-haut, sur la montagne. Et on a été sauvés. De là, j'ai tout vu. Et maintenant, je suis encore paniqué.
C'est ce sanctuaire, perché sur les hauteurs, qui a sauvé des dizaines de villageois. Cet homme, lui, habite la ville, de l'autre côté de la colline. Il voulait se rendre compte par lui-même des dégâts.
Les téléphones fixes sonnaient dans le vide. Les portables ne passaient pas. Donc j'ai décidé de venir à pied. C'était un tsunami comme il en arrive tous les 1000 ans.
Si le dicton était vrai, alors le village serait pour longtemps à l'abri d'un nouveau tsunami. Mais l'avenir est moins sûr. En contrebas, la jeune femme vient de retrouver sa maison.
Ah, c'est ma maison. Ma maison.
Petit miracle. Un collier posé sur le béton. Intact. Dans les ruines de Kamaishi, les habitants n'ont pas fini de errer comme des fantômes.